Le journal de la rédaction présenté par Ilan Malka.
Bonsoir à tous. L'Aquarius est toujours à la recherche d'un port pour accueillir les nombreux migrants qu'il transporte. 141 passagers secourus au large de la Libye. Aujourd'hui, l'Italie a refusé d'ouvrir ses portes. En France, le port de Sète accepte, mais il lui faut bien sûr l'accord des autorités. Nous ferons le point sur la situation avec Guillaume Fariol. La situation d'il y a deux mois semble en tout cas se répéter en juin dernier. Déjà, on s'en souvient, l'Aquarius avait cherché pendant plusieurs jours un pays d'accueil avant d'accoster finalement en Espagne. Depuis, l'Union européenne a-t-elle quand même tiré quelques leçons? Nous poserons la question à notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lotha. En Tunisie, les femmes vont-elles désormais avoir les mêmes droits que les hommes en matière d'héritage? Réponse du président Essebsi, oui, mais d'un côté, il propose que cette égalité soit inscrite dans la loi. De l'autre, il laisse aux familles qui le souhaitent le droit de continuer à appliquer les règles coraniques. Ces règles prévoient que la part des femmes représente en général la moitié de celle des hommes à degré égal de parenté. Nous entendrons l'analyse de Nadia Chahaban, ancienne élue tunisienne, au micro de Nadine Epstein. L'Aquarius navigue donc toujours à cette heure-ci dans les eaux internationales entre Malte et l'Italie en attendant de connaître sa destination. Le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée est bloqué en mer depuis vendredi avec une centaine de personnes à son bord. Il a récupéré vendredi dernier exactement 141 migrants au large de la Libye. Originaires de Somalie et d'Érythrée, ils étaient tous sur une petite embarcation en bois, sans eau ni nourriture. Et aujourd'hui, l'Aquarius attend donc l'autorisation d'accoster quelque part. Bonsoir Guillaume Fariol.
Bonsoir.
La présidente de SOS Méditerranée, Sophie Beau, appelle l'ensemble des pays européens à prendre leurs responsabilités.
Ah oui, parce que pour l'instant, personne ne veut de l'Aquarius. Un refus catégorique de l'Italie. D'abord, ce matin, sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a posté un message très clair. Il peut aller où il veut, pas en Italie. Hashtag port fermé, ce sont les mots du dirigeant d'extrême droite italien. Même position pour le ministre des Transports à Rome. Il demande au Royaume-Uni d'accueillir le navire. Logique selon lui, parce que l'Aquarius bat pavillon de Gibraltar, un territoire d'outre-mer britannique. Sauf que pour l'instant, à Londres, silence de la part des autorités. Autre possibilité, Malte. Mais là aussi, pas question d'accueillir l'Aquarius. Dès avant-hier, le centre de coordination des secours de Malte a signalé à l'embarcation qu'elle n'était pas la bienvenue. Bref, aucune issue à l'horizon pour l'instant. La Commission européenne indique qu'elle est en train de chercher une solution, pas plus de détails.
Et quelle est l'attitude de la France?
Eh bien, jusqu'ici, pas un mot de la part de l'Élysée ni d'aucun membre du gouvernement. Quelques prises de position tout de même dans le pays. Celle du président du port de Sète dans l'Hérault, Jean-Claude Guissot, ancien ministre des Transports de Lionel Jospin. Il se dit prêt à accueillir le navire, sauf que pour cela, il faut l'accord des autorités. Réaction également de Sonia Crimi, députée de la majorité. Elle demande à l'Italie ou à Malte d'ouvrir leur port à l'Aquarius. Et si le navire venait à s'approcher des côtes françaises, l'élu de la Manche appelle l'État à l'autoriser à accoster.
Merci à vous Guillaume Fariol. Alors on a bien sûr le sentiment que l'histoire bégaye, se répète. Il y a deux mois exactement, dans la nuit du 9 au 10 juin, l'Aquarius avait déjà récupéré 630 migrants au large de la Libye. Et il avait fallu attendre le 17 juin pour que ces passagers puissent être recueillis en Espagne. Bonsoir Laxmi Lotha.
Bonsoir.
Alors vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Où en est la politique migratoire de l'Union européenne aujourd'hui ?
Un porte-parole de la Commission européenne a indiqué aujourd'hui que Bruxelles cherchait une solution à, je cite, cet incident. Une solution, l'UE en cherche depuis la crise migratoire de 2015. Lors de leur dernière rencontre le mois dernier, les 28 ont évoqué des plateformes de débarquement de migrants. Il s'agirait pour des pays hors Union européenne d'accueillir des personnes secourues dans les eaux internationales en Méditerranée. Mais aucune décision formelle n'a été prise. C'est le flou sur la faisabilité d'un tel projet. De plus, le Maroc et la Tunisie ont déjà fait savoir qu'ils étaient contre. Le même scénario se reproduit donc, car la situation n'a pas changé. L'Italie, Malte refusent d'ouvrir leurs ports et d'assumer seuls l'accueil des migrants. Port fermé, cœur ouvert, a tweeté le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Depuis le début de l'année, l'Espagne a dépassé l'Italie en termes d'arrivées sur ses côtes. En juin, ce sont d'ailleurs les autorités espagnoles qui ont finalement accepté de laisser entrer l'Aquarius. Selon Amnesty International, quelques 720 migrants se sont noyés en juin et juillet en l'absence de secours. Les 28 doivent se revoir pour un sommet informel le 20 septembre prochain à Salzbourg en Autriche. Ils reparleront alors de ces plateformes de débarquement. La France souhaite également une grande réunion UE, pays du Sud.
Merci à vous, Lakshmi Lotha, en direct donc de Bruxelles. Un sommet à 4 sur la Syrie est prévu dans un avenir proche avec la participation de la Russie, de la France, de la Turquie et de l'Allemagne. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère russe des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, est aujourd'hui à Ankara pour préparer justement cette rencontre, qui est d'ailleurs confirmée par la France, puisque l'Elysée indique que des discussions sont en cours sur le niveau et le format de cette réunion. La Turquie, justement, essaye de contenir la crise monétaire dans laquelle elle est plongée. La livre turque s'est effondrée littéralement vendredi dernier, faisant souffler un vent de panique sur les marchés. La Banque centrale de Turquie tente de paraître rassurante. Elle annonce aujourd'hui qu'elle prendra les mesures nécessaires pour assurer la stabilité, qu'elle fournira par exemple toutes les liquidités dont les banques pourraient avoir besoin. Le problème est que par effet de domino, cette crise frappe aussi de nombreuses autres monnaies. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir.
Par entraînement, plusieurs devises de pays émergents sont également entraînées dans cette chute.
Pour sûr, les monnaies des pays émergents souffrent. La plus impressionnante chute, elle est sans doute celle du rand sud-africain qui vient de tomber à son plus bas niveau depuis le début 2016. Pas seulement la devise sud-africaine d'ailleurs, c'est aussi le cas pour le peso argentin, le peso mexicain, le real brésilien, lesquels ont déjà beaucoup baissé. Mais en fait, ce n'est pas la livre turque en tant que telle qui est à l'origine de tout cela. C'est avant tout la conséquence de la remontée du dollar qui est revenu à son plus haut niveau depuis un an. En ajoutant à cela une crise diplomatique sur fond de tensions commerciales, eh bien, ça complique la donne. Car comme la Turquie, les émergents ont beaucoup emprunté en dollars. La hausse du billet vert renchérit le coût des emprunts. Ça les rend fragiles. Du coup, les investisseurs se mettent à douter. Ils se méfient de plus en plus des pays à monnaie faible. Ils se détournent les uns après les autres des émergents pour placer leur argent aux États-Unis, là où ils peuvent compter sur de meilleurs rendements. C'est ainsi qu'ils ont déjà retiré plusieurs dizaines de milliards. Pour autant, ces mouvements sont aussi très fluctuants. Il y a 2 ans, la livre turque a aussi connu une période de dégringolade de sa monnaie alors que sa croissance patinait. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'inverse. La croissance économique est revenue, mais avec les mêmes signes de fragilité qui sont liés à quoi ? Eh bien, à un endettement qui la rend dépendante comme les autres émergents de l'extérieur.
Merci à vous Jean-Marc Chardon. Le climat reste tendu entre les États-Unis et l'Iran. Aujourd'hui, c'est l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution iranienne, qui a pris la parole. Il rejette la main tendue du président américain Donald Trump pour une rencontre. Il affirme cependant qu'il n'y aura pas de guerre avec l'Amérique. Les précisions sur place de Siavash Ghazi à Téhéran.
Dans son discours devant des milliers de fidèles, l'ayatollah Ali Khamenei a rejeté une nouvelle fois toute négociation avec les États-Unis qui, selon lui, agite l'ombre de la guerre pour faire peur aux froussards. Si on agit avec intelligence, les sanctions n'ont pas tellement d'effet, a affirmé le numéro 1 iranien qui a critiqué par ailleurs le gouvernement pour sa gestion économique qui, selon lui, a provoqué une forte chute de la monnaie iranienne. Le rial a perdu une grande partie de sa valeur face aux devises étrangères depuis un an. En août 2017, un dollar américain valait 40 000 rials. Aujourd'hui, il vaut plus de 100 000 rials. Certains dirigeants modérés ou réformateurs ont affirmé ces derniers mois qu'il fallait négocier avec les Américains pour faire baisser la pression contre le pays, mais le pouvoir dans son ensemble, y compris le président Hassan Rouhani, rejette toute négociation avec le président américain Donald Trump, qui a affirmé qu'il était prêt à négocier avec son homologue iranien sans précondition. Parallèlement à ce discours de fermeté de l'ayatollah Khamenei, l'armée iranienne a dévoilé un nouveau missile balistique de nouvelle génération. Il s'agit d'un missile de haute précision capable de déjouer tous les systèmes antimissiles, a déclaré le ministre de la Défense. Ce qui va certainement provoquer une réaction de la part des États-Unis.
Siavash Ghazi. En Tunisie, le 13 août, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et à cette occasion, le président Béji Caïd Essebsi a tenu un discours. Il propose que l'égalité entre hommes et femmes devant l'héritage soit inscrite dans la loi, comme le réclament les militantes féministes. Mais il a également ouvert la porte à des exceptions. Il assure que les familles qui souhaitent continuer à appliquer les règles coraniques pourront le faire. La loi coranique prévoit qu'en règle générale, la part d'héritage dévolue à la femme représente la moitié de celle de l'homme. Écoutons l'analyse de Nadia Shahaban, ancienne élue tunisienne. Pour elle, le président Essebsi n'a finalement pas vraiment tranché. Il est resté trop ambigu. Elle répond à Nadine Epstein.
Il aborde exclusivement la question de l'héritage avec une formulation un peu ambiguë. C'est-à-dire que le principe étant l'égalité, mais en laissant une option possible pour ceux qui veulent être en conformité avec la charia. Et là, il y a un vrai souci, parce que d'un côté, quand on se réfère au caractère civil de l'État, et quand on dit que la seule source du droit est la Constitution, il y a quelque chose d'anticonstitutionnel que d'évoquer la charia, qui a été proposé lors du vote de la Constitution et refusé à ce moment-là. C'est-à-dire le débat a été tranché et nous ramène vers ce débat-là de nouveau. Mais lui, il a évoqué aujourd'hui qu'il allait se charger de déposer un projet de loi sur la question de l'égalité dans l'héritage, c'est-à-dire en réforme du code du statut personnel. Mais il ne donne ni date, ni précision, et donc là, il y a un vrai souci.
Pourquoi il ne tranche pas? Parce que une partie de la population est contre, et notamment les partisans d'Ananda?
Une partie des partisans des Nava et des salafistes qui sont contre, mais en même temps, Nava a voté la Constitution. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas rentrer en contradiction. La Constitution stipule l'égalité entre les citoyens. Proposer autre chose aujourd'hui, d'autres options qui se référeraient à la GDA, serait anticonstitutionnel. Là, on est sur une discussion qui nous ramène vers un débat déjà qu'on a déjà eu en 2014.
Et vous pensez que la société tunisienne est justement en avance sur le politique, sur cette question de l'héritage ?
Le débat s'est imposé pendant ces 6 années. Et aujourd'hui, il y a une bonne partie de la population tunisienne qui le porte, ce projet. Je veux dire, la classe politique est parfois en retard par rapport à la société. Beaucoup de femmes tunisiennes ne veulent plus attendre. Elles veulent de l'égalité réelle et effective et non plus seulement un affichage.
Nadia Chahaban, qui est l'auteur d'un livre intitulé « Tunisie, Deuxième République, chronique d'une constituante » paru chez Demeter Éditions. À noter qu'en ce moment même à Tunis, un rassemblement en faveur de l'égalité dans l'héritage se forme devant le théâtre municipal de Tunis. Nouveau bilan aujourd'hui pour le séisme qui a frappé l'île indonésienne de Lombok le 5 août dernier. Cette catastrophe naturelle a causé 436 morts. Quelque 350 000 personnes ont parallèlement dû fuir leur foyer. Quant aux dégâts, ils sont estimés à 350 millions de dollars de dégâts matériels. Le président indonésien Joko Widodo demande aujourd'hui une intensification des opérations de recherche et de secours. On apprend aujourd'hui le décès d'une figure de proue de l'altermondialisme, Samir Amin, économiste franco-égyptien, s'est éteint aujourd'hui à Paris à l'âge de 87 ans. Il était par exemple l'auteur en 1973 de l'ouvrage « Le développement inégal, essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique ». Ses thématiques récurrentes étaient le socialisme, le colonialisme et le développement, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe. Il reçoit donc aujourd'hui de nombreux hommages. La pensée économique contemporaine perd l'une de ses illustres figures, c'est ce qu'affirme le président sénégalais Macky Sall sur son compte Twitter. Hommage également de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. Les internationalistes que nous sommes se sentent aujourd'hui un peu orphelins. Fin de citation. Gros coup de blues pour les maires de petites communes françaises. Selon un calcul de l'AFP, le nombre de maires ayant quitté leurs fonctions depuis 2014 est en hausse de 55% par rapport à la précédente mandature. Qu'est-ce qui explique de tels chiffres? Eh bien, ces maires sont usés par leurs fonctions. Ils se sentent abandonnés par l'État, notamment après la baisse continue des dotations pendant plusieurs années. Face à ce problème, le député LREM Sylvain Maillard appelle aujourd'hui à un regroupement des communes et des services. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Mais alors sa proposition ne convainc pas vraiment les édiles.
Pour soulager les maires dans leurs tâches, le député La République En Marche propose de regrouper au maximum les communes, effectivement.
Ça leur permet d'avoir plus de moyens techniques, plus de services. Quand je dis service, c'est-à-dire des personnes qui travaillent pour ces communes et qui leur permettent de remplir l'ensemble de ce que demandent les habitants.
Pierre Brajou est directeur de l'association des maires de Corrèze. Pour lui, cette proposition est déconnectée du terrain.
Je trouve que c'est une aberration. L'une des raisons pour lesquelles les élus sont désabusés, ça vient des intercommunalités qui ont grandi très rapidement ces dernières années, auxquelles on a transmis un grand nombre de compétences, si bien qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à savoir si c'est encore la compétence de la commune ou la compétence de l'intercommunalité. Les élus veulent souffler.
Certains maires peuvent également se sentir dépossédés de leurs attributions face au transfert des compétences, souligne Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France.
Parce que le maire s'aperçoit qu'il est dans une intercommunalité qui a énormément de compétences, qu'il n'a plus sur les grands projets d'aménagement, sur les choix économiques, etc. Et que finalement, il lui reste que les ennuis.
André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, estime quant à lui que cette course au regroupement n'est qu'une réponse technocratique, très loin des enjeux démocratiques portés par les élus.
Merci à vous Sophie Delpont pour ces précisions. Le ciel de demain risque d'être un petit peu pluvieux sur la moitié est du pays. Quelques averses sont attendues dans les secteurs Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Le ciel sera nuageux en Bretagne. Partout ailleurs, il sera globalement ensoleillé. Quant aux températures de demain, eh bien dans la matinée, elles partiront de 18 degrés dans le département de la Manche et elles monteront jusqu'à 27 degrés dans les Alpes-Maritimes. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia. Elle a été réalisée à la technique par Pierrick Monsigny. Je vous retrouve à 22h pour la prochaine édition.